Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
À la fin des années 50, dans les périphéries des grandes villes, d'importants bidonvilles voient déjà s'entasser de nombreux immigrants venus d'Algérie notamment. En dehors des questions sanitaires évidentes qui ne semblent pas les traumatiser, ce qui inquiète surtout les pouvoirs publics, c'est que ces baraques échappent au contrôle de la police. La guerre d'Algérie n'est pas loin. C'est donc à l'initiative du ministère de l'Intérieur que naît en 1956 la Société nationale de construction de logements de travailleurs algériens, SONA Cotral, le premier acronyme de la SONA Cotra. Il s'agit donc de construire des foyers pour loger dignement les immigrés, mais aussi pour les contrôler et les surveiller. Tonino Serafini raconte bien la période dans un article de Libération. À la fin de la guerre d'Algérie, le ministère du Travail et le Fonds d'Action Sociale commencent à s'immiscer dans la gestion des foyers et l'intérieur les lâche peu à peu. Les années 70-80 sont marquées par des conflits très durs avec les résidents. Puis le début des années 90 est un tournant. La plupart des FTM, foyers de travailleurs migrants, abritent désormais toutes sortes de personnes en difficulté. Aujourd'hui, même si on y rencontre des retraités algériens, des Chibani comme on dit, il y a également de nombreux migrants venus d'Afrique subsaharienne et d'autres pays. Plus d'un tiers des résidents sont des travailleurs précaires ou aux revenus très modestes. 30% à moins de 30 ans et un résident sur 5 est une femme, ce qui n'empêche pas d'y être une femme de moins de 30 ans aux revenus très faibles. Émilie Chaudet a voulu savoir quelles traces l'épidémie de Covid a laissées dans ses foyers, comment le confinement s'y était passé, dans quelles conditions les résidents y avaient vécu. Heureusement, l'hécatombe qu'on pouvait craindre n'a pas eu lieu, mais la situation n'en est pas moins préoccupante. La petite enquête qu'elle y a faite se passe dans deux foyers de Saint-Denis, mais il faut hélas préciser que des problèmes similaires ont été dénoncés par des résidents d'autres foyers gérés par Coalia ou ADEF. Tout de suite donc, « Mon foyer va craquer » par Émilie Chaudet.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. Et c'est comme ça que les choses arrivent.
En plein confinement, je reçois un message avec l'objet suivant. Vivre et mourir au foyer Romain Rolland. Le foyer Romain Rolland, c'est ce qu'on appelle un FTM. Un foyer Adoma de travailleurs migrants, construit il y a presque 50 ans. Lorsque j'entre en contact avec certains résidents, d'abord au téléphone, ils me demandent de venir voir. Ils me disent que sinon je ne les croirais pas. J'ai donc fini par me rendre à Saint-Denis, dans ce foyer, puis dans un autre voisin, rue David Siqueiros. J'y découvre la situation de ces quelques 300 résidents qui ont passé ces 2 mois de confinement dans de toutes petites chambres. Certains ont décompensé, d'autres sont tombés malades. D'autres encore sont morts à l'hôpital de La Fontaine, juste à côté, ou tout seuls dans leur chambre. Le message que j'ai reçu fait état de 5 morts, mais il ne s'agit pas là de chiffres officiels. La direction d'Adoma, plus tard, me parlera de 2 morts, ne comptant que ceux décédés à l'hôpital. C'est donc rue David Siqueiros que je rencontre Diagueli Kante et Bahademou Koulibaly.
Ici, c'est ma chambre, 7 mètres carrés. Un lit. Un frigo, un armoire pour les habits, 2 draps blanches, 1 couverture, un lavabo, une table. Et voilà, il n'y a que ça ici. Et plus une chaise. Bon, la table, je n'ai pas assez de place même pour la table. Vous voyez comment je le fais, je le mets sur le frigo parce qu'il n'y a pas assez de place. Vous voyez, il y a humidité. On a demandé de faire... Peinture, toutes les chambres, jusqu'à présent, rien à faire. Le dernier peinture, si je me rappelle, c'était en 95. Pour ma chambre, là, c'est propre. Hein. Ça, c'est propre. Hein. C'est par rapport aux certaines chambres. Donc, on va continuer pour voir le reste. Donc, ici, vous voyez le carrelage, comment il est noir, parce que l'eau, il reste dedans. Il ne bouge pas. Toi, moi je lave ici, l'autre lave ici, l'eau reste sous nos pieds.
Le trou qui est là, il n'évacue pas.
Et voilà l'escalier, l'état de l'escalier. Vous voyez, le mur, ils sont tous sales. Parce qu'ils ne nettoient pas. C'est la peinture qui te colle comme ça, partout. Ça, c'est l'humidité qui fait ça.
Diaghili Kanté et Bahademou Koulibaly font partie des plus anciens occupants du foyer Siqueiros. Ils ont été élus par leurs voisins président et vice-président du comité des résidents et sont chargés de faire remonter aux gestionnaires, salariés d'Adoma, les problèmes qu'ils rencontrent au quotidien. Mais en cette période de confinement, me disent-ils, leurs appels à l'aide ont résonné dans le vide.
Moi, je m'appelle Kanté Diaghili. Je suis nationalité malien, président du comité de résidents David Siqueiros. Voilà. Et je suis arrivé en France le 24 avril 1991. Et depuis que je suis venu, j'habite ici. Je travaille dans le service nettoyage, l'aspirateur, dans les hôtels. Voilà.
Et alors vous, comment est-ce que vous avez traversé ces deux derniers mois de confinement? Comment ça a été pour vous?
C'était dur. Malgré que moi je bouge un peu. Comme moi je travaille 3 heures de temps, je commence à 8 heures et je finis à midi. Quand je viens, tu es dans ton casier quoi. On dit trou d'un rat quoi. Hein? Le rat qui crée du trou là, qui rentre dedans. On est comme ça ici. Tu n'as pas d'espace. Tu rentres, tu es tout seul dedans, voilà. Donc, ça ne va pas. Bon, cette foyer est construit en 1973. Moi, je n'étais pas là, mais mon père, il était là. La première personne à loger ici, mon père, il était parmi eux. Donc, moi, je suis venu en 91, j'ai logé ici. Ils ont fait un travaux ici. Moi et Koulibaly, on leur dit que le travaux que vous avez fait, c'est bien. Mais malgré que, il y a beaucoup de défauts. Voilà, à chaque fois, ça bouche. Le toilette, il déborde jusqu'il rentre dans les chambres. Vraiment, c'est inacceptable. Dès que ça bouge même, ça sort jusqu'à dans le couloir. J'ai appelé le directeur, j'ai dit, mais il faut que vous nous envoyez quelqu'un pour venir déboucher. Sinon, vraiment, ça ne va pas du tout. On ne peut pas accepter ça, que le caca il sort dans le couloir. En temps de confinement, là, c'est encore pire.
Moi, je m'appelle M. Koulibaly Bahademou. Je suis de nationalité malien. J'ai 66 ans. Je suis arrivé le 4 mars 1974 à Paris. J'avais 19 ans. J'ai cherché du boulot jusqu'à ce que j'ai tombé sur Citroën. J'ai commencé à travailler chez Citroën le 9 septembre 1977. Je suis dans le foyer David Siqueiros à Saint-Denis, dans le 93. Il y a 13 étages. Chaque étage a 24 chambres. Donc 304 chambres à peu près. Ma chambre est à 7 mètres carrés. J'ai un lit, un matelas, deux draps, et puis bon, un lavabo, un placard où je mets mes affaires, et puis un lieu pour mettre ma télévision, c'est tout. Quand j'ai commencé le foyer, je payais 200 francs à l'époque. Ça te fait que 30 euros. Et maintenant, je suis à 310 euros. 7 mètres carrés. Il y a tellement de punaises dedans. C'est pas possible. On tue, on retue, on fait, ça revient pareil. Les conditions que nous vivons ici, c'est des conditions indignes. Vous voyez, quand on dit immigré, l'immigration, ça veut dire qu'il faut accepter tout, quoi.
À leurs mots, ces résidents joignent des images, des photos qu'ils m'envoient régulièrement et qui s'ajoutent à celles que je prends sur place. Ce que je vois va au-delà de ce qui est décrit dans le communiqué de presse que j'ai reçu. Je veux comprendre comment ces foyers en sont arrivés à une telle situation d'abandon. J'appelle donc Geneviève Petoton, professeure d'histoire à la retraite et militante au sein du COPAF, le collectif pour l'avenir des foyers. C'est elle qui a écrit le message qui m'a alertée sur leur situation. Cela fait 30 ans environ qu'elle accompagne les résidents et qu'elle a vu, elle aussi, la situation de ces foyers se dégrader.
Les foyers de travailleurs migrants et des résidences sociales, c'est un laboratoire du confinement. Hein. Dans ces chambrettes de 7 mètres carrés 50, avec tout collectif, évidemment, c'est une situation très très favorable à la transmission. Les portes d'en bas sont fermées à cause des squatteurs. Il y avait des gens qui traversaient le foyer parce qu'il y a une porte sur le devant dans l'avenue Romain Rolland et il y a une porte derrière qui donne sur la Cité Florian. Bon, tout ça a été finalement fermé, mais ça a mis un peu de temps. Et donc ce foyer, il y a toujours eu beaucoup de squatteurs, des intrus. Il y avait même pendant un temps un paquet de filles qui venaient se prostituer dans les escaliers. Donc dans chaque étage, il peut y avoir des clés pour aller aux toilettes ou douches. Parce que à cause des squatteurs, bon, les résidents se sont résignés à avoir des clés. Toutes les salles collectives, il n'y en a plus en fait. Hein. Elles ont été fermées, il y avait des salles de télé, elles ont été attribuées aux gens qui s'occupent des réfugiés. Le grand bar, il a été fermé, ça fait déjà très très longtemps. Si vous voulez, il y a quand même une ambiance extrêmement triste dans ce foyer. Moi, quand j'ai connu ce foyer, c'était les années 70, donc il était tout neuf. Les gens avaient les portes ouvertes presque tout le temps, tout le monde se connaissait. Bon, donc ça parlait de partout. Et d'ailleurs, c'était un des foyers qui s'est lancé un des premiers dans la grève, dite la grève des Sénacotrins, en 74 jusqu'en 80. Et c'était un foyer où il y avait pas mal de gens très déterminés et en tous les cas très mobilisés sur la question de l'égalité des droits. Et petit à petit, les gens qui étaient les anciens résidents, ben, ils ont vieilli tout tranquillement sans que personne s'occupe vraiment d'eux. Et là, c'est plus du tout l'ambiance des années 70. Hein. C'est plutôt la tristesse, la solitude, voire le désespoir. Hein. Il y a plein de gens et quand ils vous parlent, je vous dis, on est quand même saisi par... leur colère et leur désespoir, leur tristesse. Avec une société gestionnaire relativement absente, enfin, c'est un euphémisme. Bon. Donc, si vous voulez, les gens, ils sont un peu livrés à eux-mêmes. Le fait que Adama les abandonne, le fait qu'ils ne fassent rien, pour eux, il y a quand même une méfiance généralisée dans tous les foyers vis-à-vis des gestionnaires. Alors là, méfiance, colère, et des fois même un peu de haine contre la Doma, ça c'est sûr. Donc ce qu'ils veulent beaucoup là en ce moment, c'est surtout des désinfections. Ensuite, ils veulent des réductions de loyers. Ils se connectent par WhatsApp et ils font des petites réunions à 8 par WhatsApp. Bon. Donc ce qu'ils veulent, c'est ça.
Avant d'aller plus loin, il est temps que je vous parle d'Adoma. Anciennement appelée Sénacotra, cette société, née il y a 64 ans, dépendait surtout de l'État, qui, jusqu'en 2014, en détenait la majorité du capital. L'autre actionnaire principal, c'est la SNI, Société Nationale Immobilière, filiale de la Caisse des dépôts et consignations, et rebaptisée depuis peu CDC Habitat. En décembre 2014, Manuel Valls, alors Premier ministre, donne son accord au désengagement partiel de l'État au profit de cette SNI, qui devient l'actionnaire majoritaire et le gestionnaire d'Adoma. Or, le patron de la SNI à l'époque, André Hiché, n'hésite pas à préconiser la vente de certains logements HLM et foyers de travailleurs dans des zones à forte valeur foncière, soumettant ainsi des logements à vocation sociale aux lois du marché immobilier, avec l'objectif affiché de financer d'autres opérations de construction. Il l'avait même, dès 2010, écrit dans une note adressée à l'Élysée, encourageant l'État à vendre une partie de son parc HLM. Ainsi, en l'espace de quelques années, avec le désengagement et la bénédiction de l'État, le logement très social, à destination des travailleurs immigrés, des demandeurs d'asile, des SDF, des revenus très modestes, est devenu un outil de spéculation immobilière comme un autre. Et donc, dans certains quartiers de Saint-Denis, de Saint-Ouen, d'Aubervilliers, toutes ces villes du 93 inscrites dans le Grand Paris, et ici à proximité immédiate du futur village olympique, cette logique spéculative a depuis des mois, des années maintenant, des conséquences délétères sur les conditions de vie des résidents de ces foyers de travailleurs livrés à eux-mêmes.
Au début, le confinement, la soirée contrainte nous a avertis. Bon. Et dit, il y a le confinement. Quoi. Depuis ce jour-là, paf. Aucune personne n'est venue. Donc avec le confinement, c'est nous-mêmes qui lavons nos draps. On n'a pas eu de changement de draps. C'est nous qui lavons les couvertures. On les nettoie, c'est pareil. Dans les couloirs, il n'y a personne qui nettoie. Bon, eux aussi, ils ont peur de mourir. Donc la direction se rencontre à peur de mourir. Ils nous ont laissés comme des moutons. Ils ont pourri de mourir. Mais nous, on est là. Il n'y a pas eu de mort là-dedans. Il y a un seul Marocain.
Il est mort dans sa chambre ?
Non, il est mort à l'hôpital. À l'époque, j'ai senti que j'étais un peu malade aussi. Parce que quand j'ai commencé à comprendre les pathologies qu'on rencontrait à la télé, là, j'ai senti que c'était effectivement ça. Et puis, quand j'ai senti, je me suis couché pendant 15 jours, je ne suis pas à la maison, je prends les médicaments. Bon, j'avais le rhume. Et quand le rhume était, j'étais fatigué. Donc, j'avais le corps partout qui me faisait mal. Quand je ferme la porte, il fait chaud. Il faut que j'ouvre la porte. Une semaine après, il y a la diarrhée qui m'a tapé. Je suis resté 3 jours. 3 jours, tout ce que je mange, c'est miettes. Ça a continué comme ça, je suis resté 15 jours. Bon, malgré tout, quand même, j'ai le courage de descendre. Mais je suis resté chez moi, je dors. Puis je prends des médicaments. Finalement, c'est parti comme ça. C'est 17 mètres carrés, c'est pas une ambiance là-dedans, madame. Le foyer est sale. Les chambres sont sales. Le virus peut partir comment? Eux, ils viennent encaisser de l'argent, c'est tout. Maintenant, c'est fini. Depuis le confinement jusqu'à nos jours, on a 8 personnes. La Soronkontra a fui de tous les adomans, tous les foyers d'adomans, il les a fui tout. Aucun foyer là où nous sommes, un représentant de l'adoma ici, on n'en a pas vu.
On a écrit adoma la semaine dernière, par email. Personne ne nous répond. Donc, on les dit de venir. On va essayer de trouver solution. Donc, on a tout dit, mais rien à faire. Franchement. Donc, avec cela, Adoma, vraiment, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on doit faire avec eux.
Dans les vidéos qu'on peut voir sur le site internet d'Adoma, au slogan « Vivez l'habitat solidaire », les responsables de résidences sont émus de raconter à quel point les échanges avec les résidents et l'importance de l'humain sont centraux dans leur métier. On les voit circuler dans des locaux tout neufs et vides, à l'opposé des 2 foyers dionysiens que j'ai visités. Et surtout, ce que vivent les habitants que j'ai rencontrés est assez éloigné de cette notion d'accompagnement montrée dans ces vidéos.
Merci de laisser un message après le buzzer.
Le responsable du foyer Siqueiros est sur répondeur et malgré les messages que je lui ai laissés, il ne m'a toujours pas rappelé. Il y a également une affiche sur les ascenseurs du foyer Romain Roland sur lesquels on peut lire « Gardons le contact » avec un numéro à appeler pour joindre Adoma. Un numéro indisponible qui ne laisse même pas l'occasion de laisser un message. Pourtant, assure Adoma, par la voix de sa directrice territoriale de Seine-Saint-Denis, Laetitia Guidec, des équipes mobiles en cette période de confinement étaient à pied d'œuvre quotidiennement. Et malgré la vue d'images sans équivoque, Adoma n'y voit aucun manquement.
Je commence à vous envoyer des photos que j'ai prises moi au foyer Romain Roland et qu'on m'a envoyées depuis le foyer Siqueiros. Donc on peut voir des espaces communs, donc voilà, les résidents de ces foyers sont amenés à faire la cuisine ensemble, même s'il y a des affichages qui leur indiquent qu'il est préférable qu'ils aillent dans la cuisine les uns après les autres et masqués. Donc il y en a une où nous sommes au 10e étage du foyer Romain Roland. On voit l'intérieur d'un logement, donc une petite surface de 7,50 m². Le mur contre lequel est posé le lit, c'est un lit de place et donc c'est près de la fenêtre. Et ce mur est noir d'humidité et l'occupant, pour se protéger des moisissures, a posé du papier journal sur le mur. Et c'est comme ça sur tous les murs de sa chambre. Sur la deuxième photo, on est dans les toilettes communes de ce même foyer. Là aussi, on voit les murs noirs de crasse et d'humidité. Et le plafond s'effondre à moitié. Et c'est ce qu'on ne voit pas sur la photo, c'est qu'on patauge aussi dans l'eau pour accéder à ces toilettes. Il y a aussi la cuisine, donc sous l'évier, un renfoncement rempli de moisissures et de crasse. Et sur la dernière, donc, qui m'a été envoyée par un résident du foyer Siqueiros à Saint-Denis, il y a les toilettes collectives. Donc c'est une image où on voit des selles nager dans une eau marron. Et le locataire qui m'a envoyé ces photos m'a dit qu'il avait mis plusieurs jours avant de trouver un interlocuteur. Donc en termes de gestion d'urgence, est-ce que Adoma n'aurait pas pu faire un peu mieux ?
Un chiffre, c'est 3,5 millions d'euros. C'est le budget qu'Adoma déploie chaque année en Seine-Saint-Denis pour continuer à entretenir le mieux possible ces bâtis afin d'offrir à nos résidents les meilleures conditions de logement possible. Sur le foyer Siqueiros, la situation à laquelle vous faites référence est un sinistre qui est survenu jeudi. Nous avons dès le premier jour, réaliser des actions afin de désengorger une colonne d'évacuation qui a été bouchée. Donc, il est inexact d'affirmer que Adoma a mis plusieurs jours à intervenir.
C'est une situation, excusez-moi, qui a été décrite comme récurrente. C'est pour ça que je vous parle de gestion d'urgence.
Alors, cette situation n'intervient pas très souvent sur le foyer Siqueiros, fort heureusement. Elle a nécessité toutefois que nous intervenions à trois reprises. Et ce qui s'est passé, c'est que la colonne a été obstruée avec des effets qui ont été jetés dans les toilettes et qui ont obstrué la colonne. Ce qui a généré des conditions, vous avez raison, totalement inacceptables pour nos résidents. Et nous nous sommes efforcés, y compris durant le week-end, à intervenir et à désinfecter et remettre en état ces WC dans lesquels le problème est aujourd'hui résolu. Concernant le foyer Romain Rolland que vous évoquiez en premier, le foyer Romain Rolland est un foyer qui est voué à la démolition l'année prochaine. C'est le prochain foyer en Seine-Saint-Denis qui sera démoli dans le cadre de notre plan stratégique du patrimoine et de reconstruire à la place de nouvelles résidences autonomes, puisque ce mode d'habitat est aujourd'hui effectivement obsolète.
Comment on peut expliquer, Madame Guidec, que les résidents que j'ai rencontrés n'ont vu aucun responsable et quand ils appellent leur gestionnaire de résidence, ils tombent sur le répondeur systématiquement?
Alors cela est étonnant puisque nous avons mis en place sur l'ensemble des sites des transferts appels de façon à répondre directement aux personnes qui appellent ou à consulter très régulièrement les messages laissés afin de rappeler les résidents. Les bureaux ont certes été fermés durant la période de confinement, pour autant, nos équipes mobiles passaient quotidiennement sur ces deux foyers comme sur l'ensemble des résidences du département, par des équipes mobiles donc, qui intervenaient en visite à domicile auprès de nos résidents. Donc Adoma a continué à maintenir une présence très soutenue. D'ailleurs, sur ce foyer Romain Rolland, nous avons entre 6 et 8 collaborateurs qui sont présents quotidiennement, qui interviennent dans l'accompagnement de nos résidents et de nos hébergés.
Moi, je veux bien vous croire, mais moi, j'ai vu personne quand je suis venue et les résidents que j'ai rencontrés m'ont dit on a vu personne depuis le début du confinement et voilà, on n'est pas accompagné et les numéros affichés sur les murs ne répondent pas. C'est ça que j'observe et que les résidents observent quotidiennement.
Ce foyer, nous y sommes présents, donc le retour que vous me faites m'étonne particulièrement. Sur cette résidence, nous avons été particulièrement mobilisés et cette action des équipes mobiles a été complétée depuis le début de la crise et jusqu'à présent par une veille téléphonique. Ainsi, chaque semaine, nous avons contacté jusqu'à 1640 personnes. Des résidents âgés de plus de 55 ans. Et lorsque ces personnes ne pouvaient être jointes, nos équipes mobiles donc, se rendaient directement à leur domicile, dans le respect des gestes barrières, pour prendre de leurs nouvelles et savoir si ces personnes se portaient bien.
Un article du Parisien parlait déjà en 2011 de la démolition prévue de ce foyer Romain Rolland à Saint-Denis en y décrivant déjà des problèmes d'insalubrité du même type. Puis, dans un document d'Adoma datant de 2016 qui détaille le projet de relogement des résidents de ce foyer, il apparaît que ces derniers auraient dû être relogés entre 2016 et 2018. Ça fait donc près de 4 ans qu'ils attendent dans un logement invivable et voué à rester comme tel jusqu'à sa destruction, maintenant programmée, selon Laetitia Guidec, en 2021. Et puis il y a un autre problème, celui de la présence des salariés d'Adoma dans les différentes résidences. En 2010, la SNI, Société Nationale Immobilière, prenant le contrôle et la gestion d'Adoma, nomme une nouvelle équipe dirigeante et met en place un plan de restructuration. Sur les 2400 employés que compte l'entreprise à l'époque, près de 250 partent sans être remplacés. Parmi les salariés d'Adoma, même syndiqués, personne ne veut être enregistré.
Bonjour.
Sauf ce responsable de résidence, en poste depuis presque 20 ans en région parisienne, et qui a tenu à rester anonyme. Quand Adoma dit « nous, on mobilise des équipes mobiles qui vont de résidence en résidence, chaque jour il y a quelqu'un », est-ce que ça déjà c'est vrai? Est-ce que vos collègues vous rapportent effectivement qu'il y a...
Oui, ça c'est vrai. Mais pour faire quoi? Ils vous disent qu'on passe tous les jours et qu'il n'y a personne. Nous, on sait qu'il y a des passages de nos collègues, mais nos collègues, ils sont dans le bureau pendant une heure et demie, sans rien faire, parce qu'ils n'ont pas le droit de contacter les résidents pour leur protection. Et voilà, ils ne peuvent pas distribuer le courrier parce qu'il y avait à un moment donné aussi un manque de moyens de protection, de masques, de gants, etc. Donc on vous demande d'aller dans la résidence, peut-être pour remonter à travers la vitrine, la formation ou une problématique, mais sans plus, vous ne pouvez rien faire. Moi, la première semaine, lorsque les résidents m'ont interpellé pour des autorisations de sortie, par exemple, j'ai sollicité ma direction, même si j'étais chez moi. Oui, on va leur distribuer une autorisation par boîte aux lettres. Vous savez bien que la majorité de notre population, qui on appelle communément les Chibanis, ils ne savent pas lire et des fois, ils prennent leur courrier comme un truc de publicité, ils vont le déchirer. Et puis après, qui est présent là pour leur remplir ces autorisations? À un moment donné, si on dit qu'on essaie de communiquer, mais communiquer à travers des affiches, ça ne marche pas. Imaginez, vous leur mettez devant l'ascenseur, que l'ascenseur est en panne, une affiche, le gars, il vient taper sur la porte qui demande l'ascenseur, alors que l'affiche est devant lui, pour vous dire que, voilà, une certaine population qui a des spécificités, et ce que essaie de faire Adoma, peut-être de bonne foi, c'est pas suffisant. Et puis, tout le monde le constate qu'il y a une défaillance flagrante, tant sur le plan de la gestion que la prise en charge de cette pandémie. Nous, on sait que sur le terrain, les collègues ont souffert. On est trop surchargés. Il y a d'autres, de nouvelles fonctions qui sont arrivées. On fait la gestion de la clientèle, on fait du social, on fait ceci, cela. Donc, on est très chargés maintenant. On avait un collègue qui est responsable de deux sites. On l'a chargé à prendre les communications du secteur nord du département, d'une quinzaine de résidences. Ils ont centralisé chez lui. Et c'est vrai, à plusieurs reprises, je l'ai eu. Il me disait qu'il était débordé. Ce qui fait que notre métier est devenu très, très difficile. Moi, j'ai hâte de reprendre et d'être auprès de mes résidents parce qu'il y a quand même un certain affectif qui se crée le long des années. Donc, j'en ai hâte de reprendre un peu de la vie avec nos résidents.
Du côté du collectif pour l'avenir des foyers, comme du côté du GISTIG, le groupe d'information et de soutien aux immigrés, certaines personnes me disent étudier la possibilité de porter plainte contre l'entreprise, notamment pour non-assistance à personne en danger.
C'était Mon foyer va craquer, un reportage d'Émilie Chaudet réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Bademou Koulibaly, à Diagueli Kanté, à Samba, Monsieur Sissoko, à Geneviève Petaton, à Ali Elbaz, à Saskia Cousin, ainsi qu'à Laetitia Guidec et à Gauthier Benchek de la société Adoma. C'est Sarah Djeroui, notre stagiaire, et c'est Camille Richir, l'attachée de production des Pieds sur Terre.